ACR, atelier de création radiophonique.
Réouverture ce soir donc de l'atelier de création radiophonique avec rassemblé en un grand bloc de discours les interventions, réponses radiophoniques de Jacques Lacan qui ont été diffusées en 1970 dans deux de nos ateliers. Intervention-réponse à un enquêteur de radio publié depuis lors dans un numéro de 617 et dont Jacques Lacan affirmait qu'il y relevait la surprise d'y maintenant trouver l'effet d'une audience sans incarnation. Je poursuis toujours entre guillemets. Pourquoi, de ce que s'avère qu'elle soit séparable, se refuser au piquant d'y faire épreuve à l'incompréhensible à quelqu'un de normalement constitué? Si cela veut dire échapper à la régie du discours universitaire, on ne l'évite pas à se faire auteur. Mais me trompais-je à ressentir dans la radiophonie une route à l'action qui s'en dispenserait? Car je mets en place ici ce que je ne savais pas, je mets les guillemets pour ceux qui savent ce qui a tourné autour de ces mots de ma doctrine, ce que je ne savais pas de ma part dans l'actuelle révolution, dont je suis, mais pas l'auteur. Bien, je ferme définitivement les guillemets. J'ajouterai que le texte sur la page, le même à grand-peine, rappelle sans cesse son envol, et que cette radiophonie, à prime abord si peu radiophonique, se révèle en fait être aussi un étonnant, un mystérieux théâtre de la parole.
Je peux dire ces choses difficiles à mesure même de l'inaptitude de mes auditeurs qui y entrent pourtant de plein pied. Mais que ce soit un vice du psychanalyste à ce jour de se vouloir le maître et de là aussi inapte que à ce qu'il fait, il en obtient moins de succès. C'est ce qui fait chacun de mes écrits, si circonlocutoire, à faire barrage d'où qu'on l'aborde à la bouche que veux-tu de l'analyste.
Théâtre de la parole. Eh bien donc maintenant, vite, les trois coups.
Atelier de création radiophonique. Jacques Lacan, radiophonie. Première diffusion, juin et novembre 1970. René Farabet, Robert Georgin. Réponse de Jacques Lacan. Freud et Saussure. Structure et psychanalyse. Métaphore et métonymie. Inconscient et connaissance. Connaissance et savoir. Savoir et vérité. Impossible et réel. Jacques Lacan, radiophonie.
L'inconscient est la condition de la linguistique.
Jacques Lacan, Freud et Saussure.
Jacques Lacan, vous affirmez dans les écrits que Freud anticipe, sans s'en rendre compte, les recherches de Saussure et celles du cercle de Prague. Pouvez-vous vous expliquer sur ce point?
Votre question me surprend d'emporter une pertinence qui tranche sur les prétentions à l'entretien que j'ai d'habitude à écarter. C'est même une pertinence redoublée, ou à deux degrés plutôt. Vous me prouvez avoir lu mes écrits, ce qu'apparemment on ne tient pas pour nécessaire à obtenir de m'entendre. Puis vous y choisissez une remarque qui implique l'existence d'un autre mode d'information que la médiation de masse. Que Freud anticipe Saussure n'implique pas qu'un bruit est passé du premier au second. De sorte qu'à me citer, vous me faites répondre avant que j'en décide. C'est ce que j'appelle me surprendre. Partons du terme d'arrivée. Saussure et le cercle de Prague produisent une linguistique qui n'a rien de commun avec ce qui, avant, s'est couvert de ce nom. Retrouva-t-elle ses clés entre les mains des stoïciens? Mais quand vous êtes-il? La linguistique, avec Saussure et le cercle de Prague, s'institue d'une coupure qui est la barre posée entre le signifiant et le signifié, pour qu'il prévale la différence dont le signifiant se constitue absolument, mais aussi bien effectivement s'ordonne d'une autonomie qui n'a rien à envier aux effets de cristal. Pour le système du phonème, par exemple, qui en est le premier succès de découverte. On pense étendre ce succès à tout le réseau du symbolique en admettant de sens qu'à ce que le réseau en répond. Et de l'incidence d'un effet, oui. D'un contenu, non. C'est la gageure qui se soutient de la coupure inaugurale. Le signifié sera ou ne sera pas scientifiquement pensable selon que tiendra ou non un champ de signifiant qui, de son matériel même, se distingue d'aucun champ physique par la science obtenue. Ceci implique une exclusion métaphysique à prendre comme fait de désêtre. Aucune signification ne sera désormais tenue pour aller de soi, qu'il fasse clair quand il fait jour, par exemple, où les stoïciens nous ont devancés. Mais j'ai déjà interrogé plus haut à quelle fin. Dussé-je aller à négliger certaines reprises de mots, je dirais, sémiotiques, toute discipline qui part du signe, pas du signifiant, du signe pris pour objet, et pour marquer que c'est là ce qui faisait obstacle à la saisie comme telle du signifiant. Le signe suppose le quelqu'un à qui il fait signe de quelque chose. C'est le quelqu'un dont l'ombre a occulté l'entrée dans la linguistique. Appelez ce quelqu'un comme vous voudrez, ce sera toujours une sottise. Le signe suffit à ce que ce quelqu'un se fasse du langage appropriation comme d'un simple outil. De l'abstraction, le langage n'est plus que support, comme de la discussion moyen, avec tous les progrès de la critique, que dis-je, de la pensée à la clé. Il me faudrait anticiper, reprenant le mot de moi à moi, sur ce que je compte introduire sous la graphie de la chose. La chose, L, apostrophe, A, C, H, O, etc., pour faire sentir en quel effet prend position la linguistique. Ce n'est pas un progrès, une régression plutôt. C'est ce dont nous avons besoin contre l'unité d'obscurantisme qui déjà se soude aux fins de prévenir la chose. Personne ne semble reconnaître autour de quoi l'unité se fait. Et qu'autant du quelqu'un qui recueillait la signature des choses, on ne présumait pas assez de la bêtise cultivée pour oser inscrire le langage au registre de la communication. Ça, c'est de nous. Le recours à la communication protège, si j'ose dire, les arrières de ce que périme la linguistique, en y couvrant le ridicule qui souvent ne se décèle que de la postériori. C'est à savoir Ce qui, dans l'occultation du langage, dans premier, ne faisait figure que de mythe à s'appeler télépathie. Enfant perdu, mendigo de la pensée, que ce qui se targuette sa transmission, la pensée, sans discours. Il arrive pourtant, ce mythe, à captiver Freud, vous le savez, qui n'y démasque pas le roi de cette cour des miracles dont il annonce le nettoyage. Miracle, c'est bien le cas de le dire, quand tout se remonte à celui premier à s'opérer de ce qu'on télépathise du même bois dont on tactise, contrat social en somme, et fusion communicative, les promesses du dialogue, quoi. Tout homme, qui ne sait ce que c'est, est mortel. Ah, sympathisons d'être mis dans la même boîte. Parlons de tout, c'est le cas de le dire, de tout, ensemble. Sauf de ce qui habite la tête du syllogiste, à mettre Socrate dans le cou. Car de là, il ressort que sans doute la mort est administrée comme le reste, et par et pour les hommes. Mais sans qu'il soit du même côté pour ce qui est de la télépathie que véhicule une télégraphie. Le sujet ne cesse pas d'embarrasser chaque fois qu'on revient à ce carrefour. Que ce sujet soit peu communicable, quoique bien déterminé, est ce dont la linguistique prend sa force. Force qui va jusqu'à mettre le poète, oui, le poète, dans son sac. Car le poète se produit d'être, qu'on me permette de traduire celui qu'il démontre, mon ami Jacobson, d'être mangé des vers, qui, eux, trouvent entre eux leur arrangement, sans se soucier, c'est manifeste, de ce que le poète en a su. D'où la consistance, ce Platon, de l'ostracisme dont il frappe le poète en sa République et de la vive curiosité aussi qu'il montre dans le Cratyle pour ces petites bêtes que paraissent être les mots, un enfer qu'à leur tête. On voit combien le formalisme était précieux à soutenir les premiers pas de la linguistique. Mais c'est tout de même de trébuchement dans les pas du langage, dans ce qu'on appelle la parole, qu'elle a pris son élan. Pour nous, psychanalystes, que le sujet ne soit pas celui qui sache ce qu'il dit quand bel et bien se dit quelque chose par la bouche où on le loge, certes, mais aussi dans les balourdises d'une conduite qu'on met à son compte, dans la cervelle dont il ne cède qu'à ce qu'elle dorme, cet organe s'avérant de tenir sa portée subjective que qu'il règle le sommeil. Voilà ce que Freud dévoile dans l'inconscient. Car mon passage en ce monde au nom de Lacan aura consisté à articuler que c'est ça et que ce n'est rien d'autre. N'importe qui peut s'en assurer maintenant, rien qu'à le lire. N'importe qui opère selon ses règles à psychanalyser doit s'y tenir, sauf à le payer le choix dans la bêtise. Dès lors, à énoncer que Freud anticipe la linguistique, je dis moins que ce qui s'impose et qui est la formule que je libère. Maintenant, l'inconscient est la condition de la linguistique. Sans l'éruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du jour d'août dans l'université, du nom des sciences humaines, fait encore éclipse à la science, couronnée à Kiev par les soins ce Baudouin de Courtenay, elle y fut sans doute restée. Mais l'université n'a pas dit son dernier mot. Elle va de ça faire sujet de thèse, influence sur le génie de Raymond de Saussure du génie de Freud, démontrer d'où vient au premier le vent du second, avant qu'existe à la radio. C'est faire comme si elle ne s'en était pas passée toujours, pour assourdir autant. Et pourquoi Saussure se serait-il rendu compte, pour emprunter les termes de votre citation, mieux que Freud lui-même, de ce que Freud anticipait, notamment la métaphore et la métonymie lacanienne, lieu où Saussure génuit Jacobson. Si Saussure ne sort pas les anagrammes qu'il déchiffre dans la poésie saturnienne, c'est qu'il en sait la portée vraie. La canaillerie ne le rend pas bête. C'est parce qu'il n'est pas analyste. Dans cette position, celle d'analyste, par contre, les mauvais procédés dont s'habille l'infatuation universitaire ne vous ratent pas leur homme. Il y a là comme un espoir. C'est pas pour qui. Et le jette droit dans une bourde comme de dire que l'inconscient est la condition du langage. Quand il s'agit de se faire auteur, aux dépens de ce que j'ai dit, voire seriner aux intéressés, à savoir que le langage est la condition de l'inconscient. Je ris encore du procédé devenu là stéréotype au point que deux autres, mais pour l'usage interne d'une société que sa bâtardise universitaire a tuée, ont osé définir le passage à l'acte et l'acting out très exactement des termes que je leur avais proposés pour les opposer l'un à l'autre, mais simplement à inverser ce que j'attribuais à chacun, façon, pensait-il, de s'approprier ce que personne n'avait su en articuler avant. Si je défaillais maintenant, je ne laisserais d'œuvre que ces rebuts choisis de mon enseignement dont j'ai fait buter à l'information dont c'est tout dire qu'elle le diffuse. Ce que j'ai énoncé dans un discours confidentiel à Sainte-Anne n'en a pas moins déplacé l'audition commune au point de m'amener par après un auditoire qui m'en témoigne d'être stable en son énormité. Je me souviens de la gêne dont m'interrogeait un garçon qui avait assisté à la production de ma dialectique du désir et subversion du sujet devant un public fait de gens du parti. Le seul parmi lesquels il s'était égaré comme marxiste. J'ai gentil, comme je suis toujours, pointé à la suite de ce rebut dans mes écrits recueillis, l'ahurissement qui de ce public y fit réponse. Et le garçon, croyez-vous donc, me disait-il, qu'il suffise que vous ayez dit quelque chose, inscrit des lettres au tableau noir pour en attendre un résultat? Un tel exercice a porté, pourtant, j'en ai eu la preuve, au titre seul d'abord du rebut qui lui fit un droit pour mon livre, les fonds de la Fondation Ford qui motivait cette réunion d'avoir à les éponger, ces fonds s'étant impensablement asséchés du même coup. C'est que l'effet qui se propage n'est pas de communication de la parole, mais de déplacement du discours. Freud, incompris fut-ce de lui-même d'avoir voulu se faire entendre, est moins servi par ses disciples que par cette propagation-là, celle sans quoi les convulsions de l'histoire restent énigmes, comme les mois de mai. On se déroute ceux qui s'emploient à les rendre serfs d'un sens, marxiste pour l'occasion, dont la dialectique se présente comme dérision. Il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure.
Jacques Lacan, structure et psychanalyse.
Jacques Lacan, la linguistique, la psychanalyse et l'ethnologie ont en commun la notion de structure. À partir de cette notion, ne peut-on imaginer l'énoncé d'un champ commun qui réunirait un jour psychanalyse, ethnologie et linguistique?
Structure est le mot dont s'indique l'entrée en jeu de l'effet du langage. À partir de ceci, que cette pétition de principe, que d'en faire une fonction individuelle ou collective, soit qui serait l'attribut d'un supposé dans l'existence qui, quel qu'il soit, moi ou organisme adapté de connaissance, implique le quelqu'un dont je parlais tout à l'heure. Fonction par où donc quelqu'un se représente, les relations qui font le réel. Ce dernier terme est composé d'une catégorie, lacanienne. C'est au contraire de la présence déjà dans la réalité, laquelle n'est pas catégorie, mais donnée, de la présence, non des relations au premier plan, mais des formules de la relation qui prennent corps dans le langage que nous partons pour en suivre les faits, qui est proprement la structure. C'est ainsi qu'un discours peut dominer la réalité sans supposer consensus de quiconque, car c'est lui qui détermine la différence à faire barrière entre sujet des énoncés, au pluriel, et sujet de leur énonciation. Rien de plus exempt d'idéalisme que ce que je dis là. Nul besoin d'autre part de parquer les structuralistes. Noir dessin, à leur faire endosser l'héritage du pourrissement couvert, je ne dis pas causé, par l'existentialisme. N'importe qui a à se repérer de la structure et s'en trouvera bien. Présenter ici ma réponse à la réunion de chapitres que vous me proposez. Nota, ceci dit. Le particulier de la langue est ce par quoi la structure tombe sous l'effet de cristal, dit plus haut. Le qualifier ce particulier d'arbitraire est lapsus que Saussure a commis. De ce qu'à contre-cœur, certes, mais par là d'autant plus offert au trébuchement, il l'a pris à partir de ce discours universitaire dont je montre que le recel, c'est justement ce signifiant qui domine le discours du maître, celui de l'arbitraire. On voit que parler de corps n'est pas, quand il s'agit du symbolique, une métaphore. Car le dit corps se trouve, pour le corps pris au sens naïf, déterminant. Le premier fait, le second de s'y incorporer. D'où l'incorporel qui reste marqué le premier du temps d'après son incorporation. Rendons justice aux stoïciens d'avoir su ce terme signé en quoi le symbolique tient au corps. Incorporel. La fonction qui fait réalité de la mathématique, l'application de même effet pour la topologie, ou l'analyse en un sens large pour la logique. Mais cet incorporé que la structure fait l'affecte, ni plus ni moins, seulement apprendre de ce qui de l'être s'articule, n'y ayant qu'être de fait, soit d'être dit de quelque part. Par quoi s'avère que du corps il est second, qu'il soit mort Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant? La sépulture. Soit où d'une espèce s'affirme qu'au contraire d'aucune autre, le corps mort y garde ce qui au vivant donnait le caractère corps. Corpse reste, ne devient charogne, le corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifiait. La zoologie peut partir de la prétention de l'individu à faire l'être du vivant. Mais c'est pour qu'il en rabatte, à seulement qu'elle le poursuive au niveau du polypier. Le corps, à le prendre au sérieux, est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Dès cette marque, il est support de la relation, non éventuelle, mais nécessaire, car c'est encore la supporter que de s'y soustraire. D'avant toute date, moins un désigne le lieu dit de l'autre, avec le sigle du grand A, par Lacan. De l'un au moins, le lit est fait à l'intrusion qui avance de l'extrusion, c'est le signifiant même. Ainsi ne va pas toute chair, des seuls qu'emprunt le signe à les négativer monte de ce que corps s'en sépare. Les nuées, ô supérieures de leur jouissance, lourde de foudre à redistribuer corps et chair. Répartition peut-être moins comptable, mais dont on ne semble pas remarquer que la sépulture antique y figure cet ensemble même dont s'articule notre plus moderne logique. L'ensemble vide des ossements est l'élément irréductible dont s'ordonnent autres éléments. Les instruments de la jouissance, colliers, gobelets, armes, plus de sous-éléments à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps. Ai-je animé la structure? Assez, je pense, pour des domaines qu'elle unirait à la psychanalyse, annoncer que rien n'y destine les deux que vous dites spécialement. La linguistique, d'abord, peut définir le matériel de la psychanalyse, voire l'appareil de son opération. Elle laisse en blanc d'où se produit ce qui la rend effective, cette psychanalyse. Soit ce dont à l'articuler comme l'acte psychanalytique, je pensais éclairer plus d'un autre acte. Un domaine ne se domine que d'un opérateur. L'inconscient peut être, comme je le disais, la condition de la linguistique. Ceci ne donne à la linguistique pas la moindre prise sur lui. J'ai pu l'éprouver de la contribution que j'avais demandée au plus grand des linguistes français pour en illustrer le départ d'une revue de ma façon, que de ce fait j'aurais voulu plus spécifier dans son titre, la psychanalyse. Elle s'appelait à rappeler à ceux qui en ont fait bon marché. De cette démarche, j'avais espéré un pas dans le problème des mots antithétiques, dont il n'y a pas à s'étonner que Freud l'ait introduit, si l'on m'entend. Si le linguiste ne peut faire mieux que de formuler que le bon aise du signifié exige un choix dans l'antithèse, ceci doit donner aux gens qui, de parler l'arabe, ont à faire face à beaucoup de tels mots, autant de mal qu'à répondre à une montée de fourmilière. Il n'y a pas moindre barrière du côté de l'ethnologie. Un enquêteur qui laisserait son informatrice lui conter fleurette de ses rêves se fera rappeler à l'ordre, à le mettre au compte du terrain. Et le censeur, ce faisant, ne me paraîtra pas, fut-il Claude Lévi-Strauss, marqué mépris de mes plates-bandes. Où irait le terrain s'il se détrempait d'inconscient? Ça n'y ferait, quoi qu'on en rêve, nul effet de forage, mais flaque de notre cru. Car une enquête qui se limite au recueil d'un savoir, c'est d'un savoir de notre tonneau que nous la nourririons. D'une psychanalyse elle-même, qu'on n'attende pas faire le recueil des mythes qui ont conditionné un sujet de ce qu'il est grandi au Togo ou au Paraguay. Car la psychanalyse s'opère du discours qui la conditionne et que je définis cette année à la prendre par son envers. On n'obtiendra pas d'autre mythe que ce qui en reste en ce discours, l'édipe freudien. Du matériel dont se fait l'analyse du mythe, écoutons Lévi-Strauss énoncer qu'il est intraduisible. Ceci à bien l'entendre, car ce qu'il dit, c'est que peu importe en quelle langue ils sont recueillis, toujours de même analysable, de se théoriser des grosses unités dont une mythologisation définitive les articule. On saisit là d'où vient le mirage d'un niveau qui serait commun avec l'universalité du discours psychanalytique, mais aussi et du fait de qu'il démontre sans que l'illusion s'en produise. Car ce n'est pas d'un jeu de mitaines qu'opère la psychanalyse. Qu'elle ne puisse se passer que dans une langue particulière, ce qu'on appelle positive, même à jouer de la traduire, il fait garantie qu'il n'y a pas de métalangage, selon ma formule. L'effet de langage ne s'y produit que du cristal linguistique. Son universalité n'est que la topologie retrouvée de ce qu'un discours s'y déplace. Discours spécifié de ce que la mythologie s'y réduise à l'extrême. Ajouterais-je que le mythe, dans l'articulation de Lévi-Strauss, soit la seule forme ethnologique à motiver votre question, refuse tout ce que j'ai promu de l'instance de la lettre dans l'inconscient. Il n'opère ni de métaphore, ni même d'aucune métonymie. Il ne condense pas, il explique. Il ne déplace pas, il loge, même à changer l'ordre des tentes. Il ne joue qu'à combiner ces unités lourdes ou le complément. À assurer la présence du couple démontre le poids d'un savoir. Ce savoir est justement ce que ruine l'apparition de sa structure, ainsi dans la psychanalyse, parce qu'aussi bien dans l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au phallus se résume le point de mythe par où le sexuel est impliqué dans la passion du signifiant. Que ce point paraisse ailleurs se multiplier, voilà ce qui fascine, spécialement l'universitaire dans le discours duquel il fait défaut. D'où procède le recrutement des novices de l'ethnologie, où se marque un effet d'humour, bim noir bien sûr, à se peindre de faveur de secteur. Ah, faute d'une université qui serait ethnie, allons d'une ethnie faire université. D'où la gageure de cette pêche dont se définit le terrain comme le lieu où faire écrit d'un savoir dont l'essence est de ne pas se transmettre par écrit. Désespérant de voir jamais la dernière classe, recréons la première, l'écho de savoir qu'il y a dans la classification. Le professeur ne revient qu'à l'aube. Je vois bien plus tard que le lever de la chouette égalienne. J'essaierai de garder même distance à dire la mienne à la structure au nom de ce que votre question met en jeu de la psychanalyse. D'abord que sous prétexte que j'ai défini le signifiant comme ne l'a osé personne, on ne s'imagine pas que le signe ne soit pas mon affaire. Bien au contraire, c'est la première, ce sera aussi la dernière. mais il fallait se déplier. Ce que j'ai dénoncé d'une sémiotique implicite dont seul le désarroi aurait permis la linguistique n'empêche pas qu'il faille la faire, cette sémiotique, et de ce même nom, puisqu'en fait, c'est de celle à faire qu'à l'ancienne nous le reportons. Si le signifiant représente un sujet qui n'a quand pas un signifié, et pour un autre signifiant, insistons, pas pour un autre sujet, alors comment peut-il tomber au signe qui, de mémoire de logicien, représente quelque chose pour quelqu'un? C'est au bouddhiste que je pense à vouloir animer ma question cruciale du pas de fumée sans feu. Psychanalyste, c'est du signe que je suis averti. S'il me signale quelque chose que j'ai à traiter, je sais d'avoir à la logique du signifiant trouvé à rompre le leurre du signe que ce quelque chose est la division du sujet. Laquelle division tient à ce que l'autre soit ce qui fait le signifiant, par quoi il ne saurait représenter un sujet qu'un être un que de l'autre. Cette division répercute les avatars de l'assaut qui, tel qu'elle l'a affronté au savoir du sexuel, traumatiquement de ce que cet assaut soit à l'avance condamné à l'échec pour la raison que j'ai dite, que le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. D'où mon énonciation, il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure. Quelque chose où le psychanalyste interprétant fait intrusion de signifiant, certes, je m'exténue depuis 20 ans à ce qu'il ne le prenne pas pour une chose, puisque c'est une faille et de structure. Mais qu'il veuille en faire quelqu'un est la même chose, puisque ça va à la personnalité en personne, totale, comme à l'occasion chante l'ordure. Le moindre souvenir de l'inconscient exige pourtant de maintenir à cette place le quelque d'eux, avec ce supplément de Freud qu'il ne saurait satisfaire à aucune autre réunion que celle logique qui s'inscrit ou l'un ou l'autre. Qu'il en soit ainsi du départ dont le signifiant vire au signe, ou trouver maintenant le quelqu'un qu'il faut lui procurer d'urgence. C'est le hic, qui ne se fait nain qu'à être psychanalyste, mais aussi lacanien. Bientôt tout le monde le sera. Mon audience en fait prodrome, donc les psychanalystes aussi. Il suffirait la montée au zénith social de l'objet dit par moi petit a, par l'effet d'angoisse que provoque l'évidement dont le produit notre discours, de manquer à sa production. Que ce soit d'une telle chute que le signifiant tombe au signe, l'évidence est faite chez nous de ce que, quand on n'y sait plus à quel saint se vouer, autrement dit, qu'il n'y a plus de signifiant à frire, soit ce que le saint fournit, on y achète n'importe quoi, une bagnole, notamment à quoi faire signe d'intelligence, si l'on peut dire, de son ennui, soit de l'affect du désir d'autre chose, avec un grand A. Ça ne dit rien du petit a, parce qu'il n'est déductible qu'à la mesure de la psychanalyse de chacun, ce qui explique que peu de psychanalystes le manient bien, même à le tenir de mon séminaire. Je parlerai donc en parabole, c'est-à-dire pour dérouter. À regarder de plus près le pas de fumée, si j'ose dire, peut-être franchira-t-on celui de pas s'apercevoir que c'est au feu que ce pas fait signe. De quoi il fait signe est conforme à notre structure, puisque depuis Prométhée, une fumée est plutôt le signe de ce sujet que représente une allumette pour sa boîte. Et qu'à un Ulysse abordant un rivage inconnu, une fumée au premier chef laisse présumer que ce n'est pas une île déserte. Notre fumée est donc le signe, pourquoi pas, du fumeur. Mais allons-y, du producteur de feu, ce sera plus matérialiste et dialectique à souhait. Tullis donne le quelqu'un mise en doute, à se rappeler qu'aussi bien il n'est personne. Il est en tout cas personne à ce que s'y trompe une fat polyphémie. L'évidence pourtant que ce ne soit pas pour faire signe à Ulysse que les fumeurs campent nous suggère plus de rigueur au principe du signe. Car elle nous fait sentir, comme au passage, que ce qui pêche à voir le monde comme phénomène, c'est que le nous-mêmes, de ne pouvoir dès lors faire signe qu'au nous, soit au suprême quelqu'un, signe d'intelligence toujours, démontre de quelle pauvreté procède la vôtre, à supposer que tout fait signe. C'est le quelqu'un de nulle part qui doit tout manigancer. Que ça nous aide à mettre le pas de fumée sans feu au même pas que le pas de prière sans Dieu, pour qu'on entende ce qui change. Il est curieux que les incendies de forêt ne montrent pas le quelqu'un auquel le sommeil imprudent du fumeur s'adresse, et qu'il faille la joie phallique, l'urination primitive dont l'homme, dit la psychanalyse, répond au feu pour mettre sur la voie de ce qu'il y ait, Horatio, au ciel et sur la terre, d'autres matières à faire sujet que les objets qu'imagine votre connaissance. Les produits, par exemple, la qualité desquels, dans la perspective marxiste de la plus-value, les producteurs, plutôt qu'aux maîtres, pourraient demander compte de l'exploitation qu'ils subissent. Quand on reconnaîtra la sorte de pluie de jouir qui fait dire « ça, c'est quelqu'un », on sera sur la voie d'une matière dialectique peut-être plus propice que la chair à partie bien connue à se faire le babysitaire de l'histoire. Ce pourrait être le psychanalyste si sa passe était éclairée. Sans feu au même pas que le pas de prière sans Dieu. Métaphorise pas la métaphore, ni de métonymie de la métonymie, pour dire quelque chose qui vaille à la condensation et au virement dans l'inconscient.
Jacques Lacan, métaphore et métonymie.
Jacques Lacan, l'une des articulations possibles entre psychanalyse et linguistique ne serait-il pas le privilège accordé à la métaphore et à la métonymie par Jacobson sur le plan linguistique et par vous sur le plan psychanalytique?
Je pense que, grâce à Monseigneur de Saint-Anne, dont Thor, le traducteur de Jacobson en français, plus d'un de nos auditeurs en ce moment sait comment la métaphore et la métonymie sont, par Jacobson, situées de la chaîne signifiante. Substitution d'un signifiant à un autre pour lui, sélection d'un signifiant dans la suite pour l'autre, d'où résulte, et d'où seulement résulte, ici c'est moi qui le souligne, similarité dans un cas, contiguïté dans l'autre. On voit qu'il s'agit là d'autre chose que du lecton, de la spécification du signifié qui ne parle rien dans ce langage stoïcienne. Je passe. C'est celle que j'ai cru pouvoir illustrer du point du Capiton pour faire place à ce que j'appellerais l'effet sautille de distinction du signifiant et du signifié. Et préciser qu'il répondait assez bien ce point du Capiton à la contre-noire de l'audience matelas qui m'était réservée, bien entendu, à Sainte-Anne. Parle d'analyse. Il était inutile de crier pour des gens qui n'étaient là qu'à des fins diverses de dédouanement, conformément à ce style nécessité pour cette époque. C'était une paye par l'héroïsme de la précédente. Et ce n'est pas pour rien que j'ai introduit mon point de Capiton du jeu des signifiants dans les réponses faites par Zohad à Abner, le collaborateur, au 1-1 d'Athalie. La sous-jacente proprement analytique de ce discours, naturellement, ne pouvait, comme à l'ordinaire, qu'échapper aux intéressés. D'où, à quelques lustres de distance, l'un d'eux s'est rué à faire du point de Capiton, qui l'avait fracassé sans doute plus qu'il ne croyait, l'ancrage que prend le langage dans l'inconscient. Le but inconscient, à l'opposé de plus impudent de tout ce que j'avais articulé proprement de la métaphore et de la métonymie, le but inconscient s'inscrivant du grotesque figuratif du chapeau de Napoléon a trouvé dans le feuillage de l'arbre, soit dans le dessin qui en est représentatif. On voit ici comment Hitler s'était dessiné d'enfance, nés des tranchées souffertes par leur père dans les meudonneries du Front populaire. La métaphore et la métonymie, à l'opposé de cette promotion d'une figurativité foireuse, donnaient le principe dont j'engendrais le dynamisme de l'inconscient. La condition en est ce que je viens de dire de la barre saussurienne qui ne saurait être prise comme signe de la proportion intuitive, comme barre de fraction, usage à proprement parler délirant, mais comme ce qu'elle est pour saussure, une barrière réelle, soit à sauter entre le signifiant et le signifié. C'est ce qu'opère la métaphore, laquelle obtient un effet de sens, non pas de signification, de l'entrée d'insignifiant comme tel dans le champ du signifié. Bien sûr, ne manque-t-il désormais dans la chaîne signifiant que d'une façon que l'on peut dire métaphorique quand il s'agit de la métaphore qu'on dit poétique en ceci qu'elle relève d'un fait, du coup appelé poétique. Comme elle s'est faite, elle peut se défaire. Moyennant quoi, on s'aperçoit que l'effet de sens qu'elle produisait se faisait dans le sens du non-sens. La gerbe n'était pas avare ni haineuse, pour la raison que c'était une gerbe comme toutes les autres, bête à manger comme foin. Tout autre chose, l'effet de condensation, en tant qu'il est lié à un refoulement qui part de l'impossible, à concevoir comme limite d'où s'instaure par le symbolique la catégorie du réel. Là-dessus, un professeur, évidemment induit par mes propositions, qui croit d'ailleurs contrer, alors qu'il s'en appuie contre l'abus qui en est fait, a écrit des choses admirables. Au-delà de l'illustration du chapeau à trouver dans les feuillages de l'arbre, c'est de la feuillure de la page qu'il matérialise bel et bien une condensation typographique, celle qui, des plis du drapeau, fait lire « rêve d'or », les mots qui se disloquent pour qu'il soit porté à plat révolution d'octobre. Ici, l'effet de non-sens n'est pas rétroactif dans le temps comme c'est l'ordre du symbolique, mais bien actuel comme c'est le fait du réel, ceci de ce que le signifiant ressurgisse comme quoi dans le signifié de la chaîne supérieure à la barre, signalant par là qu'il en est déchu, c'est d'appartenir à une autre chaîne signifiante qui doit en aucun cas être recoupée de la précédente, pour toute affaire avec quel discours, celui-ci même en serait changé dans sa structure de discours. Voilà plus qu'il n'en faut pour justifier le recours à la métaphore de faire saisir. Comment, à opérer au service du refoulement, elle produit la condensation notée par Freud dans le rêve. C'est ici, au lieu de l'art poétique, ce qui opère. Ce sont des raisons. Des raisons, c'est-à-dire des effets de langage en tant qu'ils sont préalables à la signifiance du sujet. Mais que c'est par là qu'ils la font présente, de n'en être pas encore à jouer du représentant. Cette matérialisation intransitive, dirons-nous, du signifiant au signifiant, c'est ce qu'on appelle l'inconscient, qui n'est pas ancrage, mais dépôt du langage, alluvion. Pour le sujet, l'inconscient, c'est ce qui réunit la condition où il n'est pas, où il ne pense pas. Si dans le rêve, il ne pense pas, c'est pour être à l'état de peut-être. En quoi se démontre ce qu'il reste être au réveil et par quoi le rêve s'avère bien la voie royale à connaître où est sa loi. La métonymie, elle, ce n'est pas du sens d'avant le sujet qu'elle joue, soit de la barrière du non-sens. C'est de la jouissance où le sujet se produit comme coupure, qui lui fait donc étoffe, mais à ce que la jouissance se réduise à une surface corporelle, ce qui soi-même, elle fait du signifiant. Non, bien entendu, que le signifiant s'ancre, à haine ni s'ancre, haine dans la chatouille, c'est toujours le même truc, mais qu'il la permette entre autres, comme signification d'une jouissance. Bon, c'est le problème que de savoir qu'il la détermine réellement, que sous toute inscription glisse la passion du signifiant, laquelle il faut dire jouissance de l'autre, parce qu'elle est d'un corps à qui elle a été ravie et qui de là peut devenir le lieu de l'autre. La métonymie opérant d'un métabolisme de la jouissance dont le potentiel est réglé par la coupure du sujet, cote comme valeur ce qui s'en produit. Les 30 voiles dont s'annonce une flotte dans l'exemple rendu célèbre d'être un lieu commun rhétorique ont beau voiler 30 fois le corps de promesses que porte rhétorique ou flotte, rien ne fera qu'un grammairien ni un linguiste y reconnaisse le voile de Maya. Rien ne fera non plus qu'un psychanalyste avoue qu'à faire passer sa muscade sans lever ce voile sur l'office qu'il en rend, il se ravale au rang de prestidigitateur. Pas d'espoir donc qu'il approche le ressort de la métonymie quant à faire son catéchisme d'une interrogation de Freud. Il se demande si l'inscription du signifiant oui ou non se dédouble de ce qu'il y ait de l'inconscient. Question à qui personne, hors de mon commentaire à Freud, c'est-à-dire de ma théorie, ne saurait donner aucun sens. Est-ce que ça ne serait pas pourtant la coupure interprétative elle-même, soit ce qui, pour l'anonneur sur la touche, fait problème de faire conscience, qui révélerait la topologie dont il s'agit d'un cross-cap, ou ce qu'on appelle une bande de Möbius. Car c'est seulement de cette coupure que cette surface, jusque-là accessible de tout point à un autre sans qu'on ait à passer de bord à une seule face, donc se voit peu après pourvu d'un recto et d'un verso. La double inscription, elle, n'est donc du ressort d'aucune barrière saussurienne, mais de la pratique même qui en pose la question, à savoir de ce qui fait passer l'inconscient au conscient. C'est-à-dire que plus l'inconscient est interprété, plus il se confirme d'un envers irréductible, au point que la psychanalyse seule découvre qu'il y a un envers du discours, à condition de l'interpréter. Je peux dire ces choses difficiles à mesure même de l'inaptitude de mes auditeurs qui y entrent pourtant de plein pied. Mais que ce soit un vice du psychanalyste à ce jour de se vouloir le maître et reste là, aussi inapte que à ce qu'il fait, il en obtient moins de succès. C'est ce qui fait chacun de mes écrits si circonlocutoire, à faire barrage d'où qu'on l'aborde à la bouche que veux-tu de l'analyste. Il faut dire, en effet, que le désir d'être le maître est le seul à faire manquer la dimension proprement psychanalytique qui est que la cause du désir n'est pas son objet, ce qui est à la portée de la métonymie du linguiste, pour peu que tout autre qu'un psychanalyste s'en serve. Le poète, par exemple, qui dans le prétendu réalisme fait de la prose son instrument, j'ai montré en son temps que l'huître à gober qui s'évoque de l'oreille, que Bellamy s'exerce à charmer, ne change rien au fait que ce dont il s'agit est d'assurer sa jouissance de maquereau. Mais sans la métonymie qui fait ici muqueuse de cette conque, plus personne de son côté pour payer l'écho que l'hystérique exige, à savoir ce qui fait la cause de son désir à elle, une jouissance bien autre. On pointe ici que le passage est aisé du fait linguistique au symptôme et que le témoignage du psychanalyste y reste inclus. On s'en convainc. Dès qu'il commence à s'exalter de son écoute, hystérie de son middle-age. Le coquillage aussi entend la sienne d'écoute, c'est bien connu. Et qu'on veut être le bruit de la mer, sans doute de ce que l'on sache que c'est elle qui l'a écaillé. Il n'en était pas encore là. Ceux qui voulaient que je fasse à Jacobson plus d'honneur pour l'usage dont il m'était. Depuis, ils m'ont fait objection que cet usage ne fut pas conforme quant à la métonymie. Leur lenteur à s'en apercevoir montre quelle cérumène les sépare de ce qu'ils entendent à ce qu'ils en fassent parabole. Ils ne prendront pas à la lettre que la métonymie est bien ce qui détermine comme opération de crédit. Verschiebung veut dire virement, le mécanisme inconscient même où c'est pourtant l'encaisse jouissance sur quoi l'on tire. Pour ce qui est du signifiant à résumer tout cela, je dis mal, paraît-il, ce qu'il déplace, quand je traduis ainsi, déplace, Enstelt, à la page, je sais pas, 11 peut-être, de mes écrits. Il défigure, dit le dictionnaire. C'est la bonne traduction, et on me l'envoie par exprès, voire ballon-son. C'est toujours le même truc, de la figure et de ce qu'on peut y papouiller. Dommage que pour un retour à Freud dont on voudrait m'en remontrer, on ignore ce passage du Moïse où Freud tranche qu'il ne faut pas le traduire autrement que « déplace », parce que, fut-il archaïque, ce sens, c'est le sens premier. Faire passer la jouissance à l'inconscient, c'est-à-dire à la comptabilité, c'est en effet un sacré déplacement. On constatera d'ailleurs à se faire renvoyer du mot Entstellung au passage que je fais tourner autour de son emploi, que je le traduis comme il convient au gré de chaque contexte. C'est que je ne métaphorise pas la métaphore, ni ne métonymise la métonymie, pour dire qu'elles équivalent à la condensation et au virement dans l'inconscient. Mais je me déplace avec le déplacement du réel dans le symbolique, comme il faut le faire. À suivre l'inconscient à la trace.